Conakry, où il est tout juste 8h30, 9h30 ici à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI. L'actualité africaine, dernière édition, avec vous Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Nathalie et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, la Côte d'Ivoire confirme l'arrestation de 6 terroristes présumés. C'était en juillet dernier à Abidjan, avec les renseignements des services secrets américains. Ces individus étaient liés au groupe État islamique et prévoyaient de rejoindre l'Europe. Que s'est-il passé la semaine dernière entre Douala et Bangui? C'est la question à laquelle les autorités centrafricaines tentent de répondre. Un camionneur est mort lors d'une attaque sur la route et depuis, les transporteurs refusent de passer la frontière. Plusieurs syndicats pointent la responsabilité des paramilitaires russes dans cette affaire. Au sommaire également, ce rapport sur les entreprises qui évitent l'impôt au Sénégal. Chaque année, ce serait 153 millions de dollars qui n'arriveraient jamais dans les caisses de l'État. Et puis direction le Niger, Niamey a interdit l'exportation de ciment gris avec un objectif, relancer le secteur du BTP. Un réseau terroriste a bien été démantelé en juillet dernier à Abidjan, confirmation des autorités ivoiriennes. Le journal français Le Monde révélait ces informations selon lesquelles 6 personnes originaires d'Irak et de Syrie avaient été arrêtées. Elles étaient liées au groupe État islamique et prévoyaient de rejoindre l'Europe. Sidi Yansané.
Une source gouvernementale ivoirienne confirme discrètement à RFI que l'unité antiterroriste a bel et bien arrêté 6 hommes irakiens et syriens dans la commune de Koumassi à Abidjan le 28 juillet dernier, et ce grâce aux renseignements des services secrets américains. Selon le quotidien Le Monde, à l'origine de ces révélations, l'opération a permis la saisie de faux papiers et d'une trentaine de cartes SIM dans l'appartement des suspects, plus tard interrogés par les services ivoiriens et leurs partenaires américains, qui les soupçonnait de projeter un attentat aux Jeux Olympiques de Paris. En même temps que les interpellations à Abidjan, une opération similaire se déroulait 6200 km plus loin, à Madagascar. Les services malgaches épaulés par la DGSE française mettaient la main sur 2 autres membres du même réseau. Toujours selon Le Monde, les renseignements américains et français suivaient ces suspects depuis des mois pour leur lien avec l'organisation État islamique. Abidjan et Madagascar sont déjà confrontés au djihadisme venu du Sahel et du Mozambique, mais c'est la première fois que la présence de terroristes présumés directement originaires du Moyen-Orient est reconnue par les autorités ivoiriennes.
Contactés, ni les autorités françaises ni les autorités malgaches n'ont souhaité faire de commentaires. On l'apprenait il y a 2 mois, d'après Politico, en 2021, l'armée mozambicaine a enlevé, violé et tué des civils dans des conteneurs à l'entrée du site du projet gazier de Total. Et aujourd'hui, on apprend dans les colonnes du Monde que le groupe pétrolier français savait dès cette époque que les soldats chargés de la protection du site étaient accusés de violenter, d'enlever et de tuer des civils. Claire Fage.
Total avait connaissance dès 2021 des violences fréquentes que les forces de sécurité mozambicaines faisaient subir aux civils des environs. En témoignent les rapports sociaux trimestriels de sa filiale Mozambique LNG. Dans ces documents confidentiels destinés à l'agence italienne de Crédit Export, il est écrit que depuis le 2 avril 2021, les habitants ont régulièrement fait état de violations des droits humains commis par les Joint Task Force, les militaires et policiers mozambicains rétribués pour effectuer une surveillance du site gazier. Les primes à ces soldats ont d'ailleurs été suspendus pendant 2 mois, apprend-on dans ce document. Dans un rapport ultérieur, la filiale de Total évoque le sort de 2 pêcheurs battus par ces mêmes forces de sécurité, dont l'un a mort en mars 2022. Solliciter la communication de Total met aujourd'hui en avant l'environnement sécuritaire dégradé de l'époque qui donnait lieu à des risques accrus d'abus, risques contre lesquels le groupe pétrolier français avait essayé de se prémunir par des formations, des militaires, des incitations financières et un système de plaintes et d'investigation. Total a, depuis le rapport du diplomate Jean-Christophe Ruffin en mars 2023, rompu son accord avec cette Joint Task Force.
Claire Fage, c'est un bras de fer qui dure depuis près d'une semaine. Les camionneurs camerounais refusent de passer la frontière centrafricaine pour desservir Bangui. À l'origine de ce mouvement, la mort de l'un de leurs compatriotes sur la route la semaine dernière. Ce week-end, le ministre camerounais des Relations extérieures a même fait le déplacement à Bangui. Le jeune Belham Bella a porté un message spécial du président Biya à son homologue Faustin Archange Touadéra. On ne connaît pas les détails de ce message. En attendant, Charlotte Cossé, l'enquête pour élucider les circonstances du décès est en cours.
La section
mission de recherche et d'investigation de Bangui, selon son rapport rendu public, s'est déplacée sur les lieux le lundi 18 novembre, juste après les faits. Selon son compte rendu, les paramilitaires russes sécurisaient un convoi de camions en provenance de la frontière lorsqu'il aurait été attaqué sur la route à proximité de la ville de Boili. Les auteurs ne sont pas identifiés, indique le document. Plusieurs syndicats de transporteurs camerounais pointent eux la responsabilité directe des éléments russes dans la mort de leurs collègues. Dans un communiqué, le ministre centrafricain des Transports, Gontran Djonoaba, assure que l'organisation de la sécurité des conducteurs et des marchandises voyageant sur ce corridor est une priorité pour le gouvernement centrafricain. Les syndicats de chauffeurs se plaignent de difficultés récurrentes sur cette route, malgré la taxe de convoyage de 25 000 francs CFA par trajet et par camion qu'ils acquittent. Des tracasseries en provenance également des éléments censés les sécuriser. Le corridor Douala-Bangui est la voie principale de ravitaillement de la capitale centrafricaine qui importe massivement depuis le Cameroun carburant et denrées alimentaires.
Charlotte Cosset du service économie de RFI. C'est un défi pour tous les pays, s'assurer que les entreprises versent à l'État ce qu'elles lui doivent sous la forme d'impôts. C'est notamment le cas pour les industries extractives au Sénégal. Elles pourraient représenter jusqu'à 9% des recettes fiscales du pays en 2030. Seulement voilà, elles sont nombreuses à déployer des stratégies pour ne pas s'en acquitter. Des stratégies mises en lumière par un rapport du Natural Resource Governance Institute publié hier à Dakar, Gwendal Lavina.
Il est question d'évitement fiscal et de fraude fiscale, mais le rapport s'arrête surtout sur le système de fausse facturation commerciale qui permet aux entreprises de transférer des richesses hors du pays sans être imposées. Ainsi, chaque année au Sénégal, 153 millions de dollars, soit 3% des recettes fiscales, n'arriveraient jamais dans les caisses de l'État, selon le rapport. William Davis, son auteur.
C'est là où on a les preuves les plus concrètes de perte de recettes et c'est là où il existe des solutions assez claires. Par exemple, un meilleur partage d'informations entre les services douaniers dans de différents pays pour pouvoir comparer les factures qui sont déclarées pour une même cargaison à l'exportation et à l'importation.
Parmi les autres recommandations, augmenter le nombre de fonctionnaires chargés d'inspecter les entreprises et élargir les audits aux sous-traitants par lesquels se produisent bien souvent ces détournements. Des éléments déjà identifiés par les autorités, rappelle Aminata Sekdao, directrice de la réglementation au ministère de l'Énergie, du pétrole et des mines.
Le rapport vient juste nous renforcer dans la conviction du gouvernement qu'il nous faut maîtriser ces pratiques-là pour pouvoir tirer le maximum dans le cadre de l'exploitation, que ce soit minière, pétrolière ou gazière. Donc on est déjà dans cette dynamique.
L'enjeu devient d'autant plus grand pour l'État que le pays a commencé à produire ses premiers barils d'hydrocarbures et compte renégocier les contrats qui le lient à des entreprises étrangères. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Dakar où il est 8h38, 9h38 à Niamey. Au Niger, comment relancer le secteur du bâtiment? Les militaires du CNSP au pouvoir à Niamey tentent de répondre à cette question. Il y a un mois, les autorités avaient déjà annoncé une baisse de 35% du prix du ciment gris. Et désormais, Alexis Bédu, ils ont décidé d'interdire l'exportation de cette matière première.
Aucune raison officielle n'a été communiquée pour justifier cette décision d'interdire ces exportations, mais cela devrait permettre au ciment nigérien de rester dans le pays, car son nouveau prix attractif intéresse les habitants des pays frontaliers. Il y a un mois, le prix du ciment gris a été détaxé par décision du CNSP. La tonne coûte désormais entre 51 000 et 59 000 francs CFA selon les régions. Depuis cette annonce, la demande a explosé et l'offre ne suit pas, explique Yacouba Danmaradi de la Fédération des organisations patronales du Niger.
La demande est accrue subitement et surtout que la mesure, elle va prendre juste une année. Donc les gens, ils savent qu'ils ont l'argent en main, ils vont faire vite pour pouvoir rétablir leur maison détruite par les inondations, achever donc les travaux d'infrastructure que les gens ont. Au moment où c'était lancé, moi je pense qu'il n'y avait pas un stock suffisant pour pouvoir satisfaire la demande même au niveau national.
Près de 150 000 maisons se sont effondrées dans le pays suite aux inondations de la saison des pluies. Des milliers de bâtiments publics ont également été détruits. La reconstruction nécessite une importante production des trois cimenteries du pays. Elles fournissent un peu plus d'un million de tonnes de ciment par an.
Alexis Bédu. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information africaine revient à 12h30 temps universel, mais d'ici là, vous restez avec nous, puisque la suite d'appels sur l'actualité, c'est avec vous, Nathalie Amar.
Merci Arthur Ponchelet, bonne journée à vous, 9h40 à Paris.